Bon, on va commencer parce que c'est l'heure. Bonjour et bienvenue. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Monsieur Bastien Vincent Bizet, consultant chez MC Next, et je vais co-animer cette session avec Sébastien Putier, également consultant chez MC Next. Donc, cette session concerne MVC4. Comme vous le savez, depuis août 2012, en fait, le framework 4.5 de Microsoft est sorti, avec de nombreuses nouveautés et tout ce qui tourne autour du web. Donc il y a un nouveau framework MVC qui est le framework 4. Donc en fait, on va vous présenter quelques-unes des plus importantes nouveautés et après rapidement comment migrer à partir de MVC 3. Donc premièrement, en fait, je vais vous présenter MC Next, donc qui est la société qui nous emploie. Donc MC Next, en fait, c'est un groupe, société de services spécialisée Microsoft, donc qui est implantée à Paris et à Lyon. Il y a plusieurs filiales, donc Plaza Design. Plaza Design, en fait, c'est une web agency spécialisée de web et SharePoint, donc pour tout ce qui fait le design. iNext, que vous pouvez retrouver sur le salon, qui est la société de services spécialisée, on va dire Suisse, Genève, Lausanne, et iTouch, spécialisée iPhone, iPad à Paris. En quelques chiffres, MC Next, c'est 160 collaborateurs en France. C'est 15 millions de chiffres d'affaires en 2011, 35% de croissance annuelle depuis 2007, donc chaque année. MC Next fait partie de Microsoft App Circle. En fait, c'est Microsoft sélectionne des partenaires dans la réalisation d'applications Windows 8, applications Modern UI, Windows Phone 8. Et enfin, bah, forcément, MC Next est Gold Partenaire Microsoft sur 5 domaines. Alors que l'agenda, donc comment va se passer cette session? Donc on va d'abord aborder tous les sujets qui tournent autour de la mobilité, donc tout ce qui est développement pour téléphone. Ensuite, on verra les web API, un gros domaine bien nouveau. Les bundling et minification, donc ça également, c'est comment en gros réduire la taille des chargements. Les contrôleurs asynchrones. Et enfin, comment passer de MVC 3 à MVC 4. Et enfin, bon, une petite section questions-réponses. Donc en prérequis, il faut savoir que bah, si vous voulez essayer MVC 4, deux possibilités, soit télécharger Visual Studio 2012 et l'installer. En installant Visual Studio 2012, vous allez installer automatiquement le framework 4.5 et donc MVC 4. Sinon, vous installez ASP.NET MVC 4 sur Visual Studio 2010 ou les versions antérieures. Et dans ce cas-là, vous pourrez bah, suivre et développer pour MVC 4.
Donc moi, bah, je vais commencer par vous parler de la mobilité avec MVC 4. Donc en fait, il faut savoir que aujourd'hui, on a à peu près 40% des Français qui utilisent un smartphone et qui l'utilisent pour surfer. Aujourd'hui, en fait, avec ces nouveaux périphériques, on a un problème au niveau de la taille. On n'a pas de clavier physique, donc on n'a pas de souris non plus. Il faut penser à ces interactions. Donc les sites internet aujourd'hui, ils doivent s'adapter. On a vraiment un essor du développement pour les mobiles. Notre première contrainte, ça va être d'adapter le rendu. Avec MVC4, en fait, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du rendu adaptatif. Donc, comme vous le voyez, en fait, au départ, notre site web, notre application web, elle est prévue pour un écran large. Par défaut, 980 pixels. 980 pixels affichés sur un téléphone, laissez tomber, c'est catastrophique. Sur une tablette, ça pourrait passer, mais bon. Il faut quand même qu'on pense à tous les cas. Donc, MVC4 va nous permettre d'adapter le rendu par rapport à nos contraintes matérielles. On va pouvoir gérer le rendu adaptatif avec le tag Meta Viewport. Donc, il va nous permettre de dire la taille de l'écran, c'est Davis Width, tout bêtement. On va pouvoir forcer plus ou moins le rendu pour la taille du périphérique sur lequel on est. Du coup, ça fonctionne normalement sur tous les périphériques. On a une autre solution qui va être peut-être un peu plus drôle pour des développeurs, ça va être les media queries, qui vont nous permettre vraiment de s'adapter à toutes les tailles d'écran, à toutes les orientations. En général, on va plutôt se baser sur le type de périphérique, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? Si tu peux montrer, on a un petit exemple.
Donc, en fait, les media queries, c'est assez simple, c'est dans le fichier CSS. En gros, il suffit de spécifier des conditions. Donc ici, par exemple, on voit très bien qu'on dit pour uniquement pour les écrans et une taille max de 850, on va, dans ce cas-là, afficher des caractéristiques CSS particulières. Donc, on va faire, si vous voulez, une petite démonstration. Donc là, on fait hop. C'est celui-ci. Voilà. Ah, ça n'a pas switché. Dommage. Hein. Du coup, je suis. Hop là. Et c'est ici. Donc, on va ajouter à la solution un projet MVC4. Donc ajouter un projet MVC Path, c'est très simple, il suffit d'aller dans web et il y a ici une application web MVC4. Donc, on va l'appeler MVC4. Alors là on voit en fait qu'on a une fenêtre pour nous demander qu'est-ce qu'on veut comme projet. Donc il y a plusieurs types, vide, il n'y aura strictement rien, pas de vue, pas de contrôleur, rien du tout. De base, application internet, donc il y a un contrôleur par exemple pour la gestion des comptes, intranet, une application mobile, on verra plus tard, et les web API également. Donc là, on va choisir ça. Et en fait, alors pourquoi on vous a parlé des tags MetaViewport et CSS MediaQueries ? En fait, parce que c'est automatiquement implémenté maintenant dans MVC4. C'est-à-dire qu'avant, dans MVC3, si vous vouliez utiliser le tag MetaViewport, vous deviez l'ajouter manuellement. Et pareil pour les MediaQueries. Ici, on va faire ça, application dans le navigateur. Et en fait, on va voir. Donc, c'est dans Views. Donc déjà, on voit que automatiquement le tag MetaViewport est automatiquement mis en place. Donc on n'a pas besoin de s'en occuper. Et il y a également une section dans le CSS, hop, tout en bas, pour la version, voilà, Media Queries. Donc, pour faire un petit test pour montrer ce que ça donne, on va faire ici. Donc, il suffit de. Donc, on voit là notre site qui paraît normal. Et en fait, le principe donc, du tag MetaViewport, c'est que. Donc, ça, c'est les Media Queries. Media Queries, en fait, il a détecté que la résolution était inférieure à 850 pixels. Du coup, il applique ce CSS-là au lieu d'appliquer celui qui se trouve tout en haut, qui est normal. Donc, en fait, il override selon les conditions que l'on définit. Voilà. Et donc en fait, le calcul de la largeur va être déterminé par la largeur du navigateur. C'est-à-dire que, comme a très bien expliqué Sébastien, avant, le navigateur disait, voilà, moi ma largeur, c'est pas compliqué, c'est 980 pixels et ça le reste. Or ici, en gros, la largeur est dynamique et va être mise à jour. Ce qui permet, par exemple, entre autres, aux media queries de s'activer. Hop. Tac. Donc la suite. Ça passe.
Voilà. Donc, en fait, quand la modification des CSS, ne suffit pas pour une raison ou une autre, hein, on a la possibilité de faire une version spécifique. Donc, entre autres, vous pouvez avoir des problèmes d'affichage pour une vue. Sous Internet Explorer pour Windows Phone ou c'est quoi sur iPhone? Bon, Donc sur l'iPhone, vous pouvez avoir un rendu qui va être différent avec les mêmes CSS. Du coup, ça peut vous déranger. Vous avez la possibilité de faire du coup des vues spécifiques au mobile. Vas-y. Donc avant MVC4, on était obligé de détecter avec du code quel était le type de navigateur qu'on avait et éventuellement de rediriger vers la bonne vue. Aujourd'hui, avec MVC4, ce qu'on peut faire, c'est créer directement une vue donc qui va s'appeler ici myview.mobile.cshtml, donc qui va être une vue directement mobile.
Donc en fait, pour
du coup, j'ai loupé un truc. Ouais.
En fait, pour revenir, c'est maintenant dans les développements, souvent les sites web, il y a la version, je sais pas moi, vue sur n'importe quel navigateur et la version que l'on peut voir sur les téléphones mobiles. On peut penser par exemple au Monde, à lemonde.fr. Si vous regardez lemonde.fr depuis votre smartphone, vous verrez en fait l'adresse c'est m.lemonde.fr. En fait, le principe c'est de créer des vues mobiles, c'est-à-dire des vues en fait qui vont être spécifiques. Quand en fait le MVC4, enfin quand le framework va détecter si le browser est un browser mobile, dans ce cas-là, il va afficher une vue mobile. Donc avant MVC4, il fallait en fait écrire ça par du code. C'est-à-dire il fallait utiliser, comme je vous le montre ici, if request browser is mobile device. Donc si le request, en fait, si le browser est un objet mobile, un browser mobile, dans ce cas-là, on retournait une vue. Le problème de cette solution, c'est qu'il fallait l'écrire sur tous les contrôleurs, sur toutes les actions. Donc ça pouvait être vite pénible. Avec MVC4, en fait, l'avantage, c'est que maintenant, il suffit de créer myview.mobile.cshtml. Et là, le framework va automatiquement gérer cette section. C'est-à-dire que quand il va recevoir une requête, par exemple pour afficher au moins la vue index, la première chose qu'il va regarder, il va dire, est-ce que le navigateur qu'il demande, est-ce qu'il est un navigateur mobile ? Oui, c'est un navigateur mobile. Est-ce qu'il existe index.mobile.chtml. S'il l'affiche, si cette page existe, dans ce cas-là, il va l'afficher. Sinon, il va afficher index.cshtml. Le principe, c'est ça, c'est que le framework va automatiquement faire, en gros, ce petit code-là que vous avez, le petit code isRequestBrowser. Ce code va être, en fait, automatiquement généré par le framework. Une des autres nouveautés, également, ça va être les... en fait, on va pouvoir créer des vues mobiles. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez créer une vue spécifique sur un navigateur web, iPhone. Par exemple, sur votre iPhone, vous voulez dire, je sais pas, moi, je veux le logo à tel endroit, ou je veux que les bords soient arrondis, parce que les Apple aiment bien les bords arrondis. Et je sais pas, si vous voulez, sur Windows Phone, vous voulez, comme c'est des tuiles, je veux que ce soit carré. Là, il est également possible, dans ce cas-là, de créer des vues spécifiques. C'est ce qu'on a appelé au display mode. Donc je vous fais une petite démonstration du display mode. Tac. Alors, hop. Donc ce qu'on va faire déjà pour vous montrer, c'est hop, une vue home. Donc on va copier celle-ci. Elle a collé. index.mobile.cshtml. Donc pour faire simple, ici, on ne va pas s'embêter, on va écrire mobile. Donc si on lance le site depuis, hop, donc voilà, donc là on voit que mobile ne s'affiche pas, le site paraît, en gros, il affiche la page cs.html. Maintenant, si on utilise Opera Mobile, alors où est-ce que c'est écrit ? Voilà, ici on voit que mobile est fait. Et là, en fait, il n'y a eu aucun code d'écrit. On a juste créé la vue. Et du coup, le framework va automatiquement détecter que le navigateur est Opera Mobile. Opera Mobile est un navigateur de smartphone. Donc, il va utiliser la vue. Et concernant... alors. Ce que je vous disais pour les iPhones ou mobile phones, donc copier. Alors là, par contre, il va falloir écrire un petit peu de code. On va faire pour les iPhones, étant donné que le framework mobile Windows Phone ne marche pas encore très bien. Alors, en fait, il faut aller donc dans le Global Ajax, et là, il faut écrire... Alors, on va faire vite. Voilà, donc on va créer un, en fait on a un display mode provider, non, je ne connais pas. Donc là c'est les différents modes, en fait c'est une liste de modes et on va en ajouter un nouveau. Donc l'index ça va être 0, c'est un default display mode que l'on va appeler iPhone. Hop. Donc on utilise un context condition.
Donc là en fait on donne un prédicat qui, s'il est respecté, va nous rediriger vers la vue spécifique iPhone que Bastien a créé.
Tiens, comme ne trouve pas cet objet. Ah, bien vu. Donc.
En gros, ce qu'on va dire, c'est que si l'user agent du navigateur est, enfin, contient la chaîne iPhone, alors ce prédicat est respecté. Du coup, on sera bien redirigé vers cette vue-là.
Ah. Voilà. Voilà. Non. Encore un problème de parenthèse.
T'en manque une là.
Voilà. Donc en gros, ici, on défait une condition. Donc comme l'a expliqué, une condition. La condition, en gros, c'est si dans le user agent, il y a iPhone. Dans ce cas-là, en fait, on va créer un nouveau. Enfin, on va ajouter un display mode qui s'appelle iPhone. Hop. Donc là, on a créé également une vue CS index iPhone. Donc pour celle-ci, au lieu de mettre mobile, on va mettre iPhone. Donc si on relance depuis ici, la page n'a pas changé. Mobile s'affiche toujours. Par contre, ici, waouh, ça marche pas. HTTP 2.local. Voilà, donc HTTP. Voilà. Ah, raté. Ça n'a pas marché cette fois, tiens. iPhone, je me suis trompé.
T'as oublié un truc.
Hein?
J'ai dû oublier un truc. Bon, bah pas de chance.
Non, mais
disons que c'est l'effet démo.
Ouais. Je vais vous montrer sur normalement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Contexte. Est-ce que j'ai inséré en place 0? Parce qu'il est vide.
Redémarre l'appli.
Non mais non. Je vais tester avec celle-ci, hop, qui est la même. Cette fois, je l'ai testée. Donc celle-là, on voit qu'il est bien écrit mobile et sur mon navigateur iPhone. Voilà, donc iPhone. Donc là, bon, je vais utiliser l'application dont j'étais sûr. J'ai dû me faire une petite erreur quelque part.
Non, tu l'as juste pas redémarré.
Possible. C'est possible aussi. Donc comme vous avez vu, en fait, quand on utilise Opera, on a la version mobile et automatiquement, il détecte qu'on a un iPhone dans le User Agent et dans ce cas-là, il affiche des vues. Le principe de cette solution, en fait, c'est on peut spécifier directement dans MVC des vues mobiles, coder directement des vues mobiles, des vues iPhone, des vues Windows Phone, simplement sans modifier le cœur métier derrière. On a juste à modifier du code HTML. Et donc, donc ça, c'est on a vu.
Donc, alors là, on vous a montré un petit peu comment mélanger les vues classiques et les vues mobiles. Avec MVC4, on a aussi la possibilité d'avoir des projets purement mobiles. Donc du coup, on peut utiliser le template que vous avez vu sur l'écran précédent, qui s'appelle...
C'est template mobile.
Voilà, pardon, template mobile. Pour créer vraiment une application spécifique pour tout ce qui est pour tout ce qui est tablette et smartphone. Donc ce template est basé donc sur jQuery mobile qui va permettre pas mal de petites choses sympas et entre autres l'optimisation de tout ce qui est affichage pour le mobile. Ça va permettre de gérer aussi tout ce qui est événement tactile, parce que votre téléphone, a priori, vous n'avez pas de scroll bar dessus. Ce template va permettre de gérer ce qu'on appelle l'amélioration progressive. Donc en gros, en fonction des navigateurs, il va essayer de supporter un maximum de choses. Bastien va vous montrer tout de suite.
Ouais, je vais vous montrer donc rapidement à quoi ressemble le template par défaut. Donc, comme tout à l'heure, on va ajouter un nouveau projet. Donc voilà, là c'est ici où il y a la possibilité d'ajouter plusieurs projets. Donc on a une application mobile. Ok. C'est bien long. Voilà. Et donc là, par contre, en fait, il suppose vraiment que nous, on est dans une application mobile et il va en fait utiliser jQuery mobile pour afficher. Vous voyez vraiment des spécificités au mobile, c'est-à-dire une navigation par des touches, des grands rectangles, en fait, ce que l'on a l'habitude de voir sur des téléphones. Donc ça, c'est une des spécificités. Si vous voulez faire un site uniquement mobile, il est possible dans ce cas-là d'utiliser ce template-là. Dans ce cas-là, vous ferez effectivement un site internet uniquement orienté téléphone ou tablette. Donc maintenant, une autre nouveauté et une des plus importantes du framework MVC4, c'est les web API. Alors en fait, les web API, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité à des développeurs d'exposer des données et des services sur le web directement à travers HTTP. On pourra comparer ça au WCS Data Services. Les WCS Data Services, donc ça permettait d'exposer des données en utilisant WCF, sauf que c'était pas toujours le plus simple à implémenter ou à mettre en place. Et du coup, dans MVC4, il est possible de le faire à travers une API web. Donc en fait, il faut faire attention, c'est que Web API n'est pas un site internet. C'est-à-dire ça ne permet pas de faire un site internet, ça permet de simplifier le développement et ça va vraiment permettre d'exposer, de faire une interface de ces données sur le web. Alors, tac. Et donc, ça, comme je l'expliquais, ça permet de fournir des données à travers une API web. En général, c'est soit du XML, soit du JSON. Et ce service, donc ceci, on va dire ce site, va être consommé en fait par différents types d'applications. Donc ça peut être du ASP.NET MVC, ça peut être du PHP, ça peut être du Silverlight, WPF. En fait, comme c'est basé sur une architecture REST, donc sur le protocole HTTP, c'est une indépendance de la plateforme. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser PHP, vous pouvez utiliser n'importe quelle technologie. En gros, on peut considérer ça comme un web service. Ouais, tout à fait, on peut considérer ça en fait comme un web service pour récupérer de la donnée. Et donc cette donnée peut être récupérée soit en XML, soit en JSON. Par défaut, c'est les deux formats qui sont supportés par MVC4. En fait, la négociation va se faire à part par le browser. Donc par exemple, sous Google Chrome, c'est le format, ça va être du XML, alors que IE va demander du JSON. Après, le développeur, si, je sais pas, par une raison X ou Y, vous voulez utiliser du YAML, dans ce cas-là, vous pouvez ajouter votre propre format. Donc vous allez devoir, par contre, gérer un format converteur, et vous allez pouvoir, dans ce cas-là, retourner du n'importe quel format, le format que vous voulez. Un des autres avantages, c'est que c'est compatible avec les routes MVC4. Donc ça veut dire qu'il y a une petite convention spécifique, c'est /API/ après votre contrôleur. Mais en gros, vous avez toute la gestion des routes que vous connaissez sous MVC, et Web API permet cela. Donc c'est une des grosses facilités de développement également. Vous avez bien sûr la liaison des données, c'est-à-dire que Web API offre le même support qu'ASP.NET MVC pour la liaison des modèles et la même infrastructure de validation. C'est-à-dire que même si, en gros, c'est sérialisé soit en JSON, soit en XML, vous allez pouvoir, dans votre affichage ou dans le serveur, utiliser des objets fortement typés. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à resérialiser tout ce qui arrive au serveur ou tout ce qui est reçu par le client. Étant donné que les Web API vont se baser sur deux nouvelles classes, qui vont être deux nouveaux objets, HTTP Request Message et HTTP Response Message, en fait, vous allez pouvoir améliorer les tests. C'est-à-dire que vous allez peut-être vouloir moquer et envoyer un message au serveur à Web API, vous allez pouvoir utiliser HTTP Request Message. Vous voulez tester une réponse, vous utilisez la classe HTTP Response Message et dedans, vous aurez l'ensemble des informations HTTP nécessaires. Et bien sûr, ça s'est basé, Web API prend en charge le modèle de service de localisation de MVC. Donc vous allez pouvoir faire de l'inversion de contrôle comme vous pouvez le faire avec MVC normal. Donc quelques particularités par rapport à Web API. Vous devez savoir qu'en fait, toutes les méthodes des contrôleurs doivent commencer par le nom de l'action HTTP. C'est-à-dire que vous voulez récupérer, un produit ou quelque chose, vous allez devoir appeler votre fonction forcément par GET. Vous allez vouloir poster un élément pour l'ajouter, votre méthode devra commencer par post, et ainsi de suite. Donc en gros, c'est vraiment le nom de la méthode. En fait, le nom de la méthode doit commencer par le nom de l'action HTTP. Et enfin, il faut faire attention, c'est que les actions HTTP, la méthode qui va être déclenchée, en fait, n'est pas identifiée par son nom, mais va être identifié par le contrôleur et par les paramètres. Ça, je vous ferai une petite démonstration après. Et enfin, une autre particularité, c'est s'il n'y a pas de concordance entre l'HTTP request et l'action possible, en fait, ça sera le GET sans paramètre. Par exemple, si vous trompez dans le nom du paramètre et que du coup, il ne trouvera rien, le Web API ne va pas vous renvoyer une erreur, mais va vous renvoyer en fait la fonction GET sans paramètre. Donc tout ça, c'est bien gentil, mais rien de mieux qu'une petite démonstration. Alors. Donc là, j'ai créé, accélérer l'initialisation, je vous ai créé déjà un projet Web API. Donc en gros, c'est tout simple. Alors, quoi que je vais peut-être vous montrer juste en même temps. Ajouter nouveau projet. Donc c'est ici. Donc c'est Web API. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez en fait déjà une classe qui vous montre les différentes possibilités, comment l'utiliser. Hop, donc vous voyez, elle est ici. Et si vous regardez le contrôleur, vous avez donc un Home Controller, qui est un contrôleur MVC normal. Et il y a ici un Values Controller. Un Values Controller, donc on voit en fait qui dépend de API Controller ici. sais pas si c'est assez gros aussi. Et en fait, vous voyez, donc il y a le get qui permet de retourner une liste d'éléments. Le get ID, le post, le put et le delete. Donc voilà, c'est vraiment répondre à une action HTTP, enfin à une commande HTTP. Donc, hop, ici, on va ajouter un petit nouveau contrôleur. Donc, on va l'appeler product. Alors, vous voyez, ici, en fait, il est possible d'ajouter MVC, un contrôleur MVC donc pour l'affichage simple, ou un contrôleur API. Donc là, on va utiliser contrôleur API avec Entity Framework, parce que j'ai la classe qui va bien avec. Donc, vous voyez, comme je vous l'avais dit, en fait, il y a la liaison des données qui est faite automatiquement. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on peut déjà directement parler de produit. Le framework va générer automatiquement, va savoir que par la sérialisation, en fait, va être automatique et va être fortement typé au produit. Donc ici, donc, on a un getProducts qui retourne la liste des produits. Tout simplement, on a getProduct avec un ID. On a put, donc là on retourne en général une réponse HTTP pour dire en général donc là c'est l'entity state a été modifié ou ici si l'entité n'a pas été trouvée, en fait c'est des codes de HTTP de réponse. Donc souvent ça correspond à, je pense que notre found c'est 404, célèbre erreur. Et donc si on vous fait une petite démonstration. Voilà, donc là, en fait, on est sur le home. Le home, je vous ai montré, c'est un contrôleur normal. Mais si on fait, ne pas oublier API, product. Voilà, donc là, en gros, on vient de lancer le get products. Et on récupère une liste de produits. Donc cette liste de produits, actuellement, vous la voyez, en fait, elle est dans une base de données. Donc comme je vous avais montré, ici, sous Chrome, la négociation a été faite et... Ah voilà, pardon, bien vu. Et sous Internet Explorer, voilà, on a un format du texte qui correspond à du JSON. Donc comme vous voyez, en fait, il n'y a pas d'HTML, il n'y a rien. Le seul truc qu'il y a dedans, c'est vraiment une sérialisation, soit en XML, soit en JSON, de listes de produits. Enfin de, voilà. Les web API sont vraiment là en fait, pour échanger des données, c'est vraiment pas pour faire de l'affichage. Par contre, pour être utilisé, on peut après l'utiliser dans ce cas-là, dans une simple vue. Hop. Donc, par exemple, vous voulez l'utiliser. Alors là, j'utilise le même projet, pour plus simple, mais vous pouvez bien sûr l'utiliser n'importe où. Donc on va supprimer cette section. Tac. Et on va ajouter, alors, pour accélérer, je l'ai pas mise là. Bon, du coup, je vais peut-être faire juste. Non, là, c'est plus bas. C'est un peu, tu peux voir. Ah, je l'ai mis où ça? Bon, je vais le réécrire vite fait là. Donc, ce que je vais faire, c'est. Ici. Donc, on va réécrire ici, en fait, pour consommer notre web API. Donc, d'abord. Hop. Donc, script. On va d'abord ajouter le fichier jQuery parce qu'il n'y est pas. Content, donc c'est tilt. Donc j'ajoute jQuery parce qu'il n'y est pas ajouté. Et ensuite, je rajoute script. Ah oui, bien pensé. En fait, comme le code il est là, vous vous embêtez avec ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais appeler, quand le document va être chargé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un getProducts. Qu'est-ce que getProducts va faire? Je vais faire un getJSON. Donc ça, c'est du jQuery. Donc, je vais juste changer l'URL. L'URL, elle est ici. Tac. Donc je vais faire un getJSON sur mon URL où se trouve mon service API. Une fois la data récupérée, je vais l'afficher. Donc ça, on sauvegarde. Je sens ça. Je vais faire... Donc là, on est dans l'index de mon contrôleur, de home contrôleur, de la page de défaut. Et ça marche pas. Parce que je suis pas sur le bon projet. Ah. Petit problème dans ma balise script. Bien sûr, ça va pas marcher. Pourquoi ça me fait ça? Le petit effet démo. API. Ah tiens, il connaît pas jQuery maintenant. Script. Ah bah non, j'ai couru d'installer. C'était pas mal ça comme système. Du coup, je vais faire. Je vais faire tout simplement script jQuery. On va la faire à la bourre. Ajouter JavaScript. C'est jQuery jQuery-1.7. Tac, voilà. Est-ce que cette fois c'est bon?
Il manque un point.
Hein?
Il manque un point.
Toujours pas. Ah bien vu. Ah putain, c'est la merde. Voilà. Bon, cette fois. Voilà. Ça semble être bon. Et est-ce qu'il va les taper? Voilà. Donc là, on voit, il va taper service et il récupère. Donc bon, il affiche pas très bien parce que j'ai enlevé tout le CSS, mais il récupère donc l'ensemble des produits. Il va taper sur la fonction web API. En JSON, il va ici, donc voilà. Là, il va faire le getJSON sur mon API web et ensuite il affiche ça tout simplement en HTML. Donc le principe de web API, c'est vraiment ça. C'est en gros, on veut des données. On fournit ces données à travers une appli web, une API web, et celle-ci peut être consommée après par différents produits, enfin par différentes sources. Donc ça peut être une application web, ça peut être une application WPF ou autre. Alors, une autre, après on va enchaîner donc avec une autre nouveauté sur l'ASP.NET MVC 4, c'est le bundling et minification.
En fait, on a toujours eu un problème avec le web par rapport au temps de chargement des pages. Aujourd'hui, c'est moins significatif parce que on a tous techniquement des connexions chez nous qui vont bien. Simplement, depuis qu'on est revenu aux connexions entre guillemets bas débit avec les smartphones, les temps de chargement reprennent un peu d'importance. On a aujourd'hui plein de techniques pour essayer d'optimiser ça. On a des trucs un peu classiques du genre la mise en cache côté client ou la réduction de la taille des images ou des choses comme ça. Mais MVC4 nous apporte en fait deux autres aides qui sont donc le bundling et la minification. Qu'est-ce que c'est que ces machins? En gros, quand on fait du dev, on nous a appris à bien séparer les fichiers, histoire que ce soit maintenable, histoire que ce soit lisible, etc. Et bien en fait, MVC, il va prendre vos fichiers CSS bien propres ou vos fichiers JavaScript bien propres et il va en faire une espèce de bouillie incompréhensible. En gros, il va tout regrouper, renommer les variables, etc. dans un fichier en faisant en sorte que ça prenne le moins de place possible. Un très bon exemple du résultat que ça donne, c'est le fichier jQuery que Bastien s'est amusé à copier tout à l'heure, qui était tout moche, qui était en gros sur une ligne, c'était du grand n'importe quoi. MVC, il est gentil, il le fait tout seul, il supprime les espaces, les tabulations, il essaie de tout regrouper de manière à optimiser les temps de chargement. Pourquoi ? Parce que un navigateur peut ouvrir un certain nombre de connexions en même temps et moins il en ouvre mieux c'est, ça va nous permettre d'optimiser un petit peu tout ce qui se passe. Ce bundling et cette minification sont implémentés par défaut sous MVC4. Quand vous créez votre projet, normalement par défaut ça fonctionne. Vous pourrez le mettre dans MVC3, mais il va falloir coder un petit peu pour ça, même si c'est pas énorme. Là, on peut voir un petit peu le résultat de ces opérations. En fait, vous voyez avant, on a une dizaine de connexions qui sont ouvertes pour récupérer des fichiers CSS, des fichiers JavaScript. Et en fait, une fois que ces opérations sont mises en place, on a deux fois moins de connexions qui sont ouvertes. Du coup, c'est autant de temps de chargement qui est gagné, tout simplement. Parce que vous avez les entêtes, vous avez le temps d'ouverture de la connexion. Là, c'est des opérations qui ne sont plus là. Du coup, ça va plus vite. Voilà.
Donc, je vais juste vous montrer là. Comment le temps passe vite. Je vais juste vous montrer rapidement comment ça se passe pour la bundling et minification. Donc, c'est ici. Voilà. Donc en fait, ici vous voyez, vous avez bundle config registrar bundle. En fait, c'est dans cette classe, c'est ici en fait qu'on va s'occuper de toute la bundling. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va ajouter un tableau, c'est propre script bundle. Donc par exemple ici on a une spécificité pour jQuery, donc on va se baser, il va ajouter dans ce script bundle tous les jQuery, ici il va ajouter tout ce qui est jQuery UI, et ici nous allons ajouter tous nos scripts. Donc tous nos scripts en fait, il suffit de les ajouter dans un répertoire MyScript, et là ici par exemple on n'a qu'un seul, mais on aurait pu en mettre plusieurs. Et en fait, là, qu'est-ce que je dis? Je dis tous les fichiers JS qui sont dans ce répertoire, ils vont être tous réunis en un seul fichier. On va faire pareil ici pour le CSS, on va dire bah, tous les fichiers qui se trouvent dans content, tous les fichiers CSS qui se trouvent dans content, en fait on va les réunifier en un seul qu'on va appeler content CSS. Alors vous allez me dire pourquoi il y a ces noms ici. En fait ces noms sont utilisés dans les pages pour savoir comment les, enfin, quand les appeler. Parce que par exemple vous n'allez peut-être pas avoir besoin de ces fichiers JavaScript de, dans toutes les pages. Donc ici, bon, on l'a rajouté de partout. Mais par exemple, vous voyez ici, on dit, bah voilà, maintenant, moi, je veux que tu me rendes ma section content CSS. Donc automatiquement, le framework va partir de là. Va se dire, donc content CSS, à quoi ça correspond? Bah, en fait, ça correspond, hop là, ça correspond à l'ensemble des fichiers CSS qui se trouvent là-dedans. Et grâce à ces quelques lignes de code, on va pouvoir réunir l'ensemble de fichiers CSS en un seul et donc permettre d'augmenter la vitesse de chargement. Concernant la minification, elle est automatique. Le principe, c'est en fait d'enlever le mode debug des applis web. C'est-à-dire, si vous, là, vous, je lance tout de suite, en gros, il n'y aura rien, ce sera normal. Et si on enlève le mode debug, automatiquement, le framework va faire ses étapes de minification et de bundling. Donc, on va passer à la suite. Donc, la suite, c'est les contrôleurs asynchrones. Donc, comme vous savez, une des grosses nouveautés du framework 4.5, c'est les async await. Donc les async await en fait ont été poussés sur les contrôleurs asynchrones. Alors c'est-à-dire pourquoi? En fait il faut savoir que actuellement quand une requête arrive au site MVC, en fait il y a un thread, en fait qui reçoit la requête. Ce thread sort du thread pool, traite la requête et après une fois traité, le thread retourne dans le thread pool. Le problème c'est que si on a des requêtes qui sont très très longues, en fait, on peut avoir au bout d'un moment bah, le thread pool qui est vide et avoir des files d'attente et des erreurs 503. Donc ça, c'est en cas où il y a beaucoup de requêtes qui arrivent sur des traitements longs. Donc l'objectif, ça va être de diminuer le thread pool parce que un thread, c'est à peu près 1 méga par 1 méga octet dans le serveur, 1 méga de RAM. Donc si on a, je sais pas moi, 5000 threads dans le thread pool, c'est 5 gigas de RAM sur le serveur direct juste pour traiter des requêtes. L'objectif, ça va être de diminuer le thread pool pour avoir des ressources nécessaires. Et à quoi ça va servir? En fait, le principe, c'est utiliser bah, le contrôleur, enfin un thread qui est en attente. Par exemple, il lance un web service. Le web service va taper sur des bases de données, c'est très long. Jusqu'à présent, ce thread était bloqué. Ici, ça va être de le réutiliser pendant qu'il attend, c'est de le réutiliser pour traiter d'autres demandes. Donc, en fait, donc dans ce cas-là, comment ça va se passer? Donc les contrôleurs synchrones, utiliser les contrôleurs synchrones, ça va être dans des opérations simples et de courte durée. Et des contrôleurs asynchrones va être utilisé pour dans l'ensemble des opérations qui sont longues, c'est-à-dire une opération réseau, fichier, ou utilisant des web services ou des opérations qui peuvent être annulées par l'utilisateur. Dans ce cas-là, il va falloir utiliser des contrôleurs asynchrones. C'est fortement conseillé. Donc je vais vous faire une petite démonstration en fait de l'utilité et comment... en fait, quelle est vraiment l'utilité de tout ça? Alors, on va faire hop, échappe. Alors, on revient ici. Donc ici, je vais vous montrer tout simplement. Donc, j'ai fait un web API, une web API asynchrone. Donc, vous voyez ici, tout simplement, j'ai ma méthode. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me retourne une liste de produits. Sauf que je l'ai fait, elle attend un délai. Alors ce délai est compris entre 500 millisecondes et 1500 millisecondes et ça me retourne ma liste de produits. Donc là c'est vraiment pour simuler un service web, un web API qui est long, qui peut durer jusqu'à une seconde et demie. Donc ça c'est ma web API. Donc vous voyez le contrôleur est asynchrone. Et maintenant mon principe ça va être de le consommer. Alors ici donc j'ai mon site web qui va le consommer. Donc actuellement on va le voir. Donc là, on le voit ici. Mon site web qui consomme est ici. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, j'ouvre un stopwatch, j'ouvre un product services et j'appelle mon getProduct. GetProduct, en gros, qu'est-ce que c'est? Il fait un localhost dessus. Tout simplement, il fait getIPProduct et il me retourne après ma sérialisation. Donc là, j'ai la version asynchrone. La version asynchrone, qu'est-ce qu'elle fait? Pareil, elle ouvre HTTP client. Sauf que ici, je fais un download string qui est synchrone, alors que ici, je fais un read as async. Donc là, en gros, je fais un await et j'utilise en fait bah, vraiment le principe de l'asynchronisme. Donc, pour vous montrer en fait comment utiliser, alors c'est product et product 5. Tac. Ah, raté. Merde, c'est quoi le... c'est pas toi. Ah mais non, mais je suis pas, je suis bête, je suis pas appelé mon truc. C'est ici. C'est en fait. Ça, je... Et mon action, elle s'appelle. Slash home slash product. Si tu n'es pas en route, think await. Là, ça peut-être marché ce jour. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait. Donc là, je suis dans un. Hop, ici. Donc ici, j'utilise, je suis un site web MVC normal. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais récupérer ma liste des produits de façon synchrone. Donc comme je vous l'ai montré ici, je récupère mes produits de façon synchrone, je me connecte sur mon API, je le lance et je fais un download string. Ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit, on a un temps d'environ 1 seconde 47. Maintenant, si je fais la même chose en asynchrone, on va avoir une 48. Alors vous allez me dire, bah, c'est pareil. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, la requête, elle part, mais là, le problème, c'est que mon thread, il attend le résultat. Or, le résultat, qu'il soit fourni en synchrone ou pas, ça met environ une seconde et demie. Vous allez dire, bah, ça n'a aucun intérêt. Si, l'intérêt, en fait, des threads asynchrones, des contrôleurs asynchrones, pardon, c'est si on en balance, si on fait, par exemple, 10 appels. 10 appels. Là, au moment en fait, où un contrôleur va attendre qu'il ait fini l'action avant de traiter une deuxième demande, puis une troisième demande, puis une quatrième, ici, ces demandes vont être traitées en parallèle. Donc pour ça, en fait, on va le voir ici. Donc là, si je décide de récupérer all products, donc là, on est... Qu'est-ce qui va se passer? Hop. Donc ici, si je décide de traiter all products, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va prendre une liste et je vais appeler à chaque fois mon produit. Vous voyez, ici, en fait, on est même en... Ouais, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler 10 fois. Je vais appeler 10 fois mes produits. Et ici, juste en dessous, donc on va faire all products pour vous montrer. Ça va être un peu plus long. Alors pendant ce temps, je vais vous présenter du coup le reste. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser justement mon contrôleur asynchrone. Ici, vous voyez, je crée une task. Alors j'ai une liste de tasks justement. Ici, je crée une task. Ma task, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit s'occuper de récupérer mes produits asynchrones. Je l'ajoute à ma liste de tasks. Et ici, je vais attendre le résultat. Je vais attendre que l'ensemble de mes 10 tasks en fait, soient traités avant de passer à la suite et de les afficher. Donc ici, j'utilise vraiment le principe de l'asynchronisme et du contrôleur asynchrone. C'est-à-dire que mon contrôleur, ici, mon thread, en fait, quand il va attendre, eh bien, il va en fait, traiter d'autres demandes en attendant de recevoir le résultat. Donc ici, par exemple, vous voyez, en cas de synchrone, j'en suis à 11 secondes. Alors, si je passe en asynchrone, vous voyez, ma demande, elle a été quasiment traitée. Et pourtant, j'ai toujours mes 10 cas. Vous voyez, j'ai 10 fois ma liste. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que là, mon premier thread, on va dire, j'ai un premier thread qui a commencé à traiter cette demande. Et puis, il a été mis en await et il s'est dit, ben voilà, et maintenant... je suis en contrôleur asynchrone, donc comme je suis en attente, je vais traiter une autre demande. Donc il commence à traiter une autre demande. Et puis, quand il va recevoir le résultat, il va retourner le résultat, mais entre-temps, il aura traité une deuxième demande, puis une troisième. Et du coup, en fait, on réduit le temps de traitement. Donc ici, vous voyez, les 10 demandes, j'ai créé 10 demandes, j'ai fait 10 demandes sur... J'ai simulé 10 demandes sur une web API qui était en asynchrone. Et ces 10 demandes ont été traitées, en fait... de façon asynchrone, et donc le temps de traitement a été que d'une seconde 42 au lieu des 11, que dans le cas où l'ensemble des traitements est en synchrone. Ici, on est en synchrone, c'est-à-dire que les demandes sont faites les unes après les autres, le contrôleur attend que la demande précédente soit traitée, et on se trouve, effectivement, vous voyez là, c'est long, voilà, ça a mis 11 secondes. Donc vous imaginez sur un site de production, je ne sais pas moi, de vente en ligne, où les temps de traitement peuvent être très longs, ben, s'il y a des milliers de demandes qui arrivent en même temps, cela peut faire planter le site, voire le ralentir. Or, si on utilise des contrôleurs asynchrones sur des tâches très spécifiques, Dans ce cas-là, on réduit le temps de chargement drastiquement. Et enfin, on va rapidement finir. Donc là, c'est les contrôleurs synchrones. Sur comment passer de MVC3 à MVC4. Alors, clairement, le plus simple pour passer de MVC3 à MVC4, c'est de créer une nouvelle application MVC4 et de copier-coller le code. C'est bête, mais en fait, il y a énormément de modifications à faire dans les packages, dans les web.config, dans les CSS proj, que si votre site n'est pas trop important, le seul conseil que je vous donne, c'est vraiment de créer en fait une nouvelle application MVC4 et de copier-coller le code. Alors bien sûr, si vous avez une application avec 15 contrôleurs et un modèle assez important, dans ce cas-là, il est possible de le modifier. Pour cela, il faut installer avec nuget le package MVC4. Ensuite, il y a une dizaine de modifications à faire dans le web.config. Et il y a deux modifications à faire dans le CSproj. Voilà, donc ça, en fait, vous pouvez trouver ce détail sur Internet. C'est assez bien expliqué. Voilà, donc là, actuellement, la session est terminée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.